C'est faux. A contrario, elle peut avorter contre votre avis. En effet, une mineure n'est plus obligée d'obtenir l'accord des parents pour obtenir une IVG. Seule condition imposée par la loi de 2001, bien entendu, elle doit se faire accompagner d'une personne majeure de son choix. Un ami, un frère, une sœur, etc.
67,4 millions d'enfants, dont la moitié seraient des filles, dans le monde, sont privés d'école.
C'est malheureusement vrai, avec 796 millions d'adultes analphabètes dans le monde, dont les deux tiers, figurez-vous, sont des femmes.
Et à ce sujet, on vous conseille d'aller voir l'excellent documentaire « Sur les chemins de l'école ». Il y avait une super soirée au cinéma Le Rio à ce sujet. Je clôt la publicité cinématographique.
Non mais c'est intéressant, tu as raison.
Une expérience, autre vrai faux, pardon. Une expérience sociologique montre, en présentant des photos d'enfants qui pleurent, que le sexe du bébé dans la question influence la réponse des personnes sondées.
C'est absolument vrai. Cette expérience menée par John Condrey en 1976 montre que nous sommes conditionnés depuis la nuit des temps à analyser que les petits garçons pleurent par faim ou par colère et les petites filles par peur. Eh bien, ça fait assez peur tout ça.
Et ce qui fait peur aussi, c'est que déjà même in utero, on peut vous dire si c'est un garçon ou une fille en fonction de la position.
Exactement, voilà. Ça fait très très peur tout ça. Je crois, Anne-Laure, qu'on va avoir une petite pause musicale.
Et oui, tout à fait, comme nous sommes dans le thème de l'enfance, j'ai choisi une chanson d'Émilie Loiseau qui explique le monde aux enfants. La chanson s'appelle « Voilà pourquoi ».
Écoutons ça.
Dans l'eau, à la nage, revenait au rivage. Le sel de son chapeau doucement s'en alla vers le large. Voilà pourquoi la mer est salée, mon bébé. Son chat qui passait par là mit ses bottes et l'a pris dans ses bras. Le bain était si froid que l'animal en perdit sa voix. Voilà pourquoi les poissons-chats ne miaulent pas. C'est parce qu'il pleut que tu pleures, c'est quand tu souris qu'il fait beau. Les oiseaux n'ont jamais peur et les avions la nuit protègent les fleurs. Un bœuf de mauvaise humeur s'était brouillé avec son coiffeur là. Très affamé, vit son crâne et le prit pour un œuf. Et voilà pourquoi, si tu manges un œuf, tu manges un bœuf. Tout rouge, pris de panique, un lapin nain se trouvait trop grand. L'a fait dans le lavomatique, le mit à laver dans l'eau bouillante. Voilà pourquoi les lapins nains sont pas trop grands. C'est pas que tu pleures, c'est quand tu souris qu'il fait beau. Les oiseaux n'ont jamais peur et les avions la nuit protègent les fleurs.
Le jour des élections, un crapaud disait à sa guenon:
ce lion a quelques vices, mais il a le sens de la justice. Et
voilà pourquoi un lion est roi des animaux.
Et voilà pourquoi chez nous c'est plutôt un blaireau.
Eh bien, nous partons du monde de l'enfance pour revenir à l'antenne. Vous écoutez Féministe et vous sur Radio Campus 93.3. Et donc, c'est au tour de Stéphanie avec une revue de presse riche en rebondissements, je crois.
Oui, alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai épluché un peu la presse diverses et variées qu'on peut trouver au niveau national et international. Et je vous en ai extrait une petite sélection.
Alors, nous t'écoutons.
Alors, au niveau international, dans Le Courrier International, en date du 9 décembre, On a une brève qui m'interpelle pas mal. Mmh. Il faut savoir que depuis plus d'un mois, au Turkménistan, un pays que je ne saurais exactement vous situer, il y a des raids de police turkmènes qui se multiplient dans les cafés, les restaurants, les discothèques, les rues et même les fêtes familiales. L'objectif est d'interpeller les femmes sous un prétexte fallacieux de pseudo-lutte contre la prostitution. Donc en fait, l'enjeu, c'est venir sur les espaces publics, faire des contrôles sur les femmes. On peut supposer que ça reste quand même du domaine d'empêcher les femmes d'occuper l'espace public. Mmh. Donc en fait, les policiers viennent dans un établissement, font sortir de force les femmes présentes et les amènent au commissariat. Ils ciblent principalement les femmes seules, mais parfois aussi les femmes accompagnées. Donc quand elles arrivent au commissariat, les dames doivent prouver, documents à l'appui, quel est leur statut marital, si elles sont mariées. Il y a également en fait un examen gynécologique qui est effectué sur chaque personne interpellée pour vérifier si elles n'ont pas des maladies sexuellement transmissibles. Donc n'importe quelle femme dans la rue, hein, c'est assez sympa, assez énorme. Voilà, au Turkménistan, ça sent un petit peu mauvais. On a aussi des rumeurs concernant l'interdiction pour les femmes de conduire un véhicule à partir de 2016. Donc voilà, wow. Mesdames, profitez-en, enfourchez les bolides, parce que bientôt, vous n'aurez plus le droit.
Non, mais plus rien ne m'étonne parfois.
Alors, revenons en France. Une bonne nouvelle. On avait parlé il y a quelques mois de la précarité sur cette antenne. Donc, je tiens à vous dire que Najat Vallaud-Belkacem lance une expérimentation dans une dizaine de territoires pour créer une garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Donc ça, c'est un article de la Dépêche du Midi en date du 5 décembre où vous pourrez y lire en fait l'idée de cette expérimentation. On sait que 40% des pensions alimentaires fixées par les tribunaux ne sont pas payées par les papas, en l'occurrence, sont dans la majorité des cas, dans la totalité des cas des pères. On a même en fait le président de l'Union nationale des associations familiales qui appelle ça un sport national. En France, le sport national, c'est de ne pas payer les pensions alimentaires. Donc voilà, le ministère des Droits des Femmes, conjointement avec les autres autorités et avec les CAF, lance une expérimentation afin d'aider les mères de familles monoparentales à se sortir de cette situation financière difficile. On a en fait un plan de 350 millions d'euros étalé 2014, 2015, 2016, 2017 qui est mis en place. Et on essaye de voir en fait si cette garantie permettra à ces mères de famille de pourvoir aux besoins de leurs enfants et également de responsabiliser les papas par ailleurs.
Donc, situation... Encore énormément de progrès à faire.
Oui, situation très difficile par ailleurs. Dans le journal du dimanche du 7 décembre, on a un article très intéressant, une interview de Fleur Pellerin, notre ministre en fait aux nouveaux usages numériques, le sexisme insidieux du numérique. En fait, on aurait tendance à croire que chez les geeks et assimilés, le sexisme n'existerait pas puisqu'on est quand même sur une avant-garde technologique, donc avec des réflexions relativement poussées. Il se trouve que non. Les créatrices d'entreprises technologiques représentent seulement 10% en fait, des créateurs, les femmes, contre 30% ailleurs. On a un manque criant d'ingénieurs en la matière en fait, dans les centres de formation. On voit que les femmes qui créent des sociétés ont plus de mal à lever des fonds que les hommes qui créent des sociétés de même type. Bref, dans le domaine du numérique, c'est très très difficile. Donc vous verrez en fait dans cette interview que Fleur Pellerin présente un peu le dispositif qu'elle espère mettre en place et le sexisme ambiant qu'on peut voir un peu partout et qui fait là encore toujours peur. Ensuite, un dernier article qui m'a bien plu, parce que moi, je suis une fan de Catherine Vidal. Le cerveau a-t-il un sexe ? Voilà, alors c'est un livre que j'adore sur notre blog. Vous pouvez voir une fiche de lecture rédigée par mes petites mains. Donc voilà, alors Catherine Vidal a une amie qui s'appelle Lise Elliot. Donc on parle de cette neurobiologiste dans Le Nouvel Observateur, avec un article du 24 novembre. Lise Elliot est une neurobiologiste diplômée d'Harvard, professeure de l'Université de Chicago, donc c'est pas n'importe qui a planché pendant 8 ans pour écrire un ouvrage « Cerveau rose, cerveau bleu, les neurones ont-ils un sexe ?» Ah, la grande question. Ah, la grande question, surtout avec les jouets roses et les jouets bleus. On a 500 pages, en fait, qui viennent d'être parues en édition de poche chez Marabout, donc petite pub en passant. Dans ce livre, on nous précise que il y a, en fait, des petites disparités très légères entre les cerveaux des hommes et des femmes, mais que la plasticité cérébrale, la capacité de notre cerveau à s'adapter, ne justifie pas en fait le stéréotype comme quoi les filles auraient l'hémisphère droit plus gonflé pour la parole à quatre et les garçons l'hémisphère gauche surdéveloppé.
C'est la part belle
détracteurs de la fameuse théorie du genre.
Voilà, les essentialistes, etc. On est tout à fait là-dedans. Donc en fait, dans le Nouvel Observateur, notre cerveau a-t-il un sexe ? Un article très bien fait pour parler de ce livre qui vient casser les idées reçues sur les différences de cerveau entre les ch'tis garçons et les ch'tis filles.
Ok, eh bien, nous allons maintenant écouter Anne Sylvestre avec une chanson qui, je ne sais pas pour vous les filles, mais moi ça m'a particulièrement émue au point de verser quand même une petite larme. On écoute juste une femme.
Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse. Il y peut rien, c'est son dessein, quoi, il est pas un assassin, il veut simplement apprécier ce que la nature met sous son nez. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à saloper. Juste une femme à dévaluer. Je pense pas qu'on doive s'en inquiéter. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit ami, petit patron, petite pointure. Petit pouvoir, petit chef haillon, petite ordure. Petit voisin, petit professeur, main baladeuse. Petit curé, petit docteur, parole visqueuse, entremetteuse. Il y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite. Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à humilier. Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Petit mari, petit soupçon, petite incartade. Petite plaisanterie de salon, petite rigolade. Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance. Et trembler qu'une fois de plus il recommence. Inconvenance. Quoi, si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper. Non, c'est vrai, il est pas un monstre, et c'est l'épouse qui prend la honte. Mais c'est pas grave, c'est juste une femme. C'est juste une femme à bafouer. Juste une femme à désespérer. Je pense pas qu'on doive s'en séparer. C'est pas un drame, c'est juste une femme. Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames, est traitée comme un paillasson, et quelle que soit la façon, quelle que soit la femme, dites-vous qu'il y a mort d'âme. C'est pas un drame.
J'ai des frissons. Des femmes. On retourne sur Féministe et vous, Radio Campus, il est 18h16 et vous écoutez 93.3. Nous retrouvons Leïla, oui Leïla, qui nous emmène faire un beau voyage dans le monde de l'enfance avec Delphine Lorichès qui dirige la ludothèque de Saint-Jacques et qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions.
Je dis à tout le monde que je vais interviewer Papageno, c'est pas tout à fait exact, même si j'adorerais parler au personnage imaginé par Mozart dans La Flûte Enchantée. J'aurais beaucoup de choses à lui demander. Par exemple, je lui demanderais si ça va toujours bien avec Papagena. Je lui demanderais s'ils ont fait beaucoup de Papageno et beaucoup de Papagena comme c'était prévu. Et si ça se passe bien, qu'ils s'occupent des enfants, qu'ils leur donnent à manger, qu'ils leur donnent le bain. En l'occurrence, je n'interviewe pas Papageno, j'interviewe la libraire de la librairie Papageno à Clermont-Ferrand, Florence Vidal. Bonjour.
Bonjour.
J'aurais quelques questions à vous poser concernant donc votre métier, puisque vous vendez des livres pour la jeunesse. Est-ce que les gens qui viennent acheter des livres pour enfants ont des attentes particulières, ont des stéréotypes en tête?
Alors, personnellement, Papagenou et moi-même, nous nous battons énormément contre cela, évidemment. Pour nous, enfin pour moi, il n'y a pas de littérature sexiste. Et je fais en sorte d'essayer d'avoir le moins possible de choses comme celle-ci. Par exemple, les princesses, j'essaie d'éviter. Par exemple... Mais le problème, c'est que c'est vrai que les parents, en général, sont encore très ciblés là-dessus et sont souvent motivés par le fait que leur petit garçon, ça aime les pirates, les dinosaures, voilà, et puis que leur petite fille, ça aime les robes de princesse, les princesses et les histoires d'amour, voilà. Donc... c'est difficile de lutter contre ça. Il faut toujours, toujours revenir un petit peu là-dessus. Et à chaque fois, je dis... Lorsque des parents veulent un livre pour entre 2 et 3 ans et qui déjà proposent des choses comme ça, je dis souvent, mais attention, faites attention, ça c'est des stéréotypes, c'est des schémas classiques, c'est tout ça, mais essayons de faire autrement. Les princesses, il y en a marre. Ou alors essayons de lui trouver une princesse qui fait de la moto, qui en a marre des princes charmants, qui va de l'avant et qui est plutôt rigolote, quoi. J'essaie toujours de faire ça. Ceci dit, après, on ne peut pas non plus aller à l'encontre non plus. Mais bon, je me bagarre un peu quand même, oui.
Oui, est-ce qu'on trouve beaucoup de princesses qui font de la moto aujourd'hui dans la littérature pour la jeunesse?
Malheureusement, non. Il y a cette fameuse princesse fine mouche de Babette Cole qui était vraiment très sympa, quoi. Elle faisait de la moto, elle refusait tous les princes charmants, même s'ils lui apportaient des tas de choses et tout ça. Mais... le problème, c'est qu'à la fin, elle succombe quand même à l'amour et à un prince charmant qui est super sympa, quoi. Et bon, ben voilà. Alors, ceci dit, elle a lutté. Elle est passée outre un petit peu tout ce qu'on voulait bien lui commander de faire ou être dans son rôle de princesse à part entière, quoi. Et ça, c'est bien aussi.
Oui, on se rend compte quand on lit des études sur la littérature enfantine et le sexisme dans la littérature enfantine que, bah, d'une part, les héros masculins sont surreprésentés. Dans la littérature destinée aux 0 à 3 ans, c'est 3 fois plus de héros masculins que de héros féminins. Et on se rend compte aussi que les rôles dévolus aux personnages féminins sont beaucoup plus passifs, beaucoup plus stéréotypés. Ce sont des personnages qui sont à l'intérieur des maisons, qui ne sont pas dans l'espace public, tandis que pour les personnages masculins, on a une variété incroyable de métiers, d'aventures, de lieux, de caractères aussi, hein. Tandis qu'une fille, visiblement, c'est un petit peu plus restreint. Donc finalement, à travers la princesse, une fille ne va pas réussir à s'identifier à une femme d'aujourd'hui, à une femme qui est active, indépendante. Quels sont les modèles, selon vous, qu'il faudrait mettre en avant pour que les petites filles puissent s'identifier à des modèles féminins positifs?
Mais justement, cette princesse fine mouche, là, elle est super.
Je pense que ça serait bien aussi de mettre en avant des grandes femmes, des femmes modèles. Bon, l'année dernière, j'avais trouvé... Marie Curie, un livre sur Marie Curie pour ma nièce. Moi, je m'étais vraiment précipitée dessus. J'imagine qu'il y a quand même des exemples comme ça qu'on peut présenter.
Ben oui, mais il n'y en a pas tant que ça en littérature jeunesse. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'on peut avoir des références? D'abord, ce sont des références souvent d'adultes. Et voilà, les enfants n'ont pas ces références-là en tête. Et bon, il faut simplement essayer justement de faire en sorte... Là, il y a par exemple un autre titre qui s'appelle « Ma maman sait tout faire » chez Frimousse, et où c'est une petite fille qui raconte que sa maman, ben, à la maison, elle fait tout. Mais elle fait tout. Elle pose du carrelage, elle débouche les éviers, elle fait tout ce que devrait faire éventuellement un garçon ou son papa. Mais son papa, dans un petit coin, et ben lui, il câline sa sœur, il lui donne le biberon, il s'en occupe, il fait la vaisselle quand sa maman n'a pas le temps parce qu'elle n'a pas fini de poser le dernier carreau de la cuisine. Voilà. Mais à la fin, il y a une araignée qui arrive et la maman crie « Au secours, au secours !» Alors il la prend dans ses bras et elle lui dit « Heureusement que tu es là, qu'est-ce que je ferais sans toi ?» Voilà.
Oh, c'est beau.
Mais ce qui est dit dans ce texte, c'est que
cette petite fille, elle a l'habitude d'avoir une maman comme ça. Donc, il n'y a rien d'anormal à ça. Et quand c'est ses copines, en fait, qui disent mais moi, ma maman, elle ne fait pas ça. Ben, je dis, moi, la mienne, elle fait ça. Et j'en suis tellement fière, tellement fière.
Oui, il faut savoir aussi que les enfants sont très conformistes. Jusqu'à l'âge de 5 à 7 ans, ils n'ont pas encore compris la différence entre les sexes. Donc, ils cherchent des indices dans l'environnement, dans les apparences, pour dire ben, qu'est-ce que c'est une fille, qu'est-ce que c'est un garçon. Alors on leur dit une fille ça fait ça, un garçon ça fait ça, ou une fille c'est comme ci, une fille c'est comme ça. Il faut faire très attention, parce qu'après ça reste ancré, notamment pour les petites filles. C'est dommage de leur restreindre leur horizon. Oui, vous avez donc des partenariats avec l'inspection académique donc, pour mettre en avant certains titres. Comment ça se passe ?
C'est Lire la ville, c'est une association qui fait en sorte d'amener des livres dans les familles. Voilà, donc ça se passe avec des écoles. Et là, cette année, ils ont choisi justement le thème de cette littérature qui est non sexiste et justement qui fait prendre conscience que un papa, une maman, ça peut faire les deux choses en même temps ou tout pareil ou voilà, il n'y a pas de différence quoi. Et ça fait quand même un peu bouger des choses.
Est-ce qu'il y a des maisons d'édition ou des auteurs qui se sont penchés sur la question du spécifiquement de la littérature non sexiste?
Il y a au départ, il y a Adela Turin qui était une auteure italienne qui a créé toute une collection sur ce thème-là, hein, notamment Rose Bonbon. Enfin bon, il y a plein de titres là-dessus. Moi, je fais très très attention à tout ça. Il y avait un petit roman aussi qui était à l'école des loisirs qui s'appelait Poussière, et la petite fille elle voulait demander des choses à ses parents, et son papa était assis en lisant le journal, et son papa lui disait va voir ta maman, et la maman évidemment elle était représentée avec le dessin avec une casserole et un torchon. Voilà, donc et puis elle disait ben moi je sais pas, alors demande à ton papa, moi je sais pas. Voilà, l'abruti, l'idiote qui sait rien et qui est bonne qu'à faire la vaisselle. Bon, alors ça m'énerve outrageusement, et j'avais même mis ce livre à la poubelle carrément, parce que je peux pas supporter une poubelle fictive que j'avais mis sur la table là-bas, et j'ai dit non, pas ça, jamais. Voilà, enfin en tout cas moi je lutte beaucoup contre ça, parce que j'en ai marre. Adela Turin l'a dénoncé aussi pour, malheureusement, désolé, mais Pob, enfin le petit ours brun, qui est vraiment, et elle le dit haut et fort, et c'est encore comme ça, un peu moins parce qu'ils ont pris conscience, mais les débuts c'était vraiment maman tablier et papa journal, hein, ça c'était terrible.
Oui, un petit ours brun a encore des progrès à faire, mais on est tous derrière maman ours, hein, et on la soutient dans son émancipation. J'ai entendu parler de différentes initiatives. En Île-de-France, il y a eu un collectif qui s'appelle Adéquation, qui a choisi de mettre en avant 20 albums de jeunesse pour une éducation non sexiste. Ils ont aussi préparé une exposition pour interpeller sur ce sujet. Et un livret a été édité qui s'appelle « Littérature de jeunesse non sexiste » en mars 2011. Il y a une maison d'édition spécialisée qui s'appelle « Talent Haut ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, Talent Haut, c'est une maison d'édition, effectivement, qui va de tout petit jusqu'au roman ado. Ils viennent d'en sortir un qui est très bien et qui parle de toutes ces choses-là, et où, justement, les héroïnes sont des filles, quoi. Et sont des filles, et ça fait un petit peu, même un peu polémique, parce qu'on pense qu'il y a même une petite aventure homosexuelle entre elles, alors que ça n'est que, comment dire, ça n'est que... suggéré, c'est même pas dit, c'est suggéré, et puis mince, on a droit d'être une héroïne sans être homosexuelle, et ou en l'étant même, et puis peu importe, on s'en fiche quoi, c'est pas le problème. Enfin voilà, donc Talent Haut, justement, ça fait une dizaine ou une quinzaine d'années déjà qu'ils luttent ensemble pour avoir une littérature comme ça, et qui font que des livres sur ce thème-là, pratiquement, ouais.
Oui, pour revenir au thème de l'homosexualité, c'est vrai que c'est pas évident de l'aborder avec des enfants. Comment on peut parler de ces problèmes d'inégalité entre hommes et femmes, ou remise en cause du modèle une femme, un papa, une maman, pour simplifier. Dans quel livre on peut accompagner ce questionnement-là?
Mais tout dépend déjà de l'âge de l'enfant, déjà, parce que bon, il y a des choses qu'il comprend ou qu'il comprend pas. J'ai des livres cartonnés qui ont fait polémique aussi à leur sortie, parce que c'était c'est cartonné et c'est pourtant Barnabé a deux papas. Voilà, puis il y en a un bien connu aussi, c'est Marius au poisson soluble, où c'est deux papas qui viennent chercher aussi leur enfant à l'école. Il y a plein de choses comme ça, mais tout dépend de l'âge de l'enfant, de ce qu'il peut comprendre, parce qu'on ne va pas lui mettre dans la tête directement des choses qu'il ne pourrait pas comprendre et qu'il pourrait peut-être, voilà. Mais je pense qu'à partir de 6-7 ans, ils peuvent tous comprendre, et puis qu'il y a des textes, oui, effectivement, des éditeurs et des auteurs qui font de très bonnes choses là-dessus.
Oui, on dit souvent qu'il faut attendre les questions des enfants hein, pour répondre autant sur la sexualité que ce genre de choses. Il ne s'agit pas de leur farcir la tête. Hein. Je vous remercie beaucoup, Florence Vidal, de nous avoir accordé cet entretien. Et je recommande à tous nos auditeurs de venir souvent à Papageno. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a des trésors. Ça donne vraiment envie de lire. Donc c'est vraiment la grande qualité de cet espace. Merci beaucoup Florence Vidal.
Je vous remercie.
Eh bien, c'était en fait Céline qui était partie dans un endroit merveilleux qui s'appelle Papageno à la rencontre de Florence Vidal. Je crois que tu as retrouvé ton âme d'enfant là-bas, Céline. Et dans quelques instants, ça va groover sur le plateau de Féministes et vous avec Joanne as Police Woman, une voix soul qui nous interprète The Magic. est rythmé ce morceau. Il est 18h33 et vous écoutez Féministe et vous sur Radio Campus 93.3. Donc nous allons passer au coup de gueule et au coup de cœur.
On a une deuxième interview.
On va quand même essayer d'écouter.
On a retrouvé l'interview
de Leïla. Mais c'est magnifique.
On l'a retrouvée, c'est magnifique. Voyons voilà, si ça c'est marche. La magie du direct.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Donc, bonjour, je suis Delphine Lorichesse. Je suis de formation éducatrice de jeunes enfants et je travaille dans une ludothèque, une association de Clermont-Ferrand.
Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez un petit peu définir ce que c'est qu'une ludothèque, quelles actions vous mettez en place dans ce cadre-là ?
Alors, une ludothèque, la vocation première, c'est d'avoir des espaces-temps où les parents et les enfants peuvent venir jouer sur place, comme louer des jeux. C'est le principe d'une bibliothèque, mais sur les étagères, ce ne sont que des jeux et des jouets.
Un peu le même principe donc d'une bibliothèque, on peut emprunter des jeux. Et quel public vous touchez à peu près ?
Bah, le jeu, c'est pour tous. Ça va de 0 à 77 ans. Voilà. Il y a une diversité de jeux qui est une vraie richesse. Et l'idée, c'est de proposer des instants de partage entre parents, enfants, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Voilà, le jeu, ça s'adresse vraiment à tout le monde.
Le jeu, c'est pas que pour les enfants. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
Non, c'est pour tout le monde et ça se partage. Et c'est important que ça se vive ensemble parce que c'est un espace de rencontre et d'expression.
Et alors, par rapport à la construction d'identité, est-ce que vous pourriez me donner votre avis sur tout ce qui est jeu symbolique, jeu d'imitation, par exemple par rapport aux tout-petits ?
Alors le jeu, il a trois fonctions. Une fonction d'apprentissage, quel que soit le jeu proposé. Une fonction de socialisation. Et une fonction de construction d'identité personnelle, mais aussi sexuée. Et ça va se vivre au travers différents types de jeux. Donc il y a les jeux de construction, les jeux de société, et il y a aussi le jeu symbolique, qui peut être de différents types, le jeu d'imitation et le jeu de figurines, de mise en scène, qui sont une façon pour l'enfant de jouer. Une histoire imaginaire, comme revivre des situations du quotidien pour aller mesurer d'autres conséquences que celles qu'il peut avoir dans la réalité. Donc il va mettre en jeu et mettre en scène.
Mais par rapport justement à la construction de l'identité en tant que fille et en tant que garçon, par rapport à ce qu'on peut appeler des jeux à sexuation qui peuvent... nous indiquer qu'on est en train de définir ce que doit être un garçon et ce que doit être une fille. Je vous donne un petit peu un petit piège.
Alors, nous, dans les propositions qu'on peut faire, on n'est pas du tout dans cette idée de jeu sexué. On a tout un espace de jeux symboliques avec une marchande, des garages, une machine à laver, une cuisinière, un aspirateur, des balais qui sont accessibles à tous les enfants, garçons ou filles. Parce que l'on soit garçon ou fille, on va vouloir aussi rejouer des choses du quotidien et l'enfant en a besoin. Le jeu symbolique participe à l'acquisition du langage et c'est ce jeu-là qui lui permet de mettre du sens. Donc ça participe à la construction sexuelle, mais on a besoin d'imiter maman comme on a besoin d'imiter papa. Et qu'on en soit garçon ou fille. Donc voilà, dans cette mise à disposition, nous ce qu'on peut voir, c'est que les filles ont un réel plaisir à jouer au circuit de voiture parce que c'est des choses qui sont pas forcément, qui n'existent pas forcément à la maison. Donc elles se l'approprient très facilement, elles ont un réel plaisir à ça. Et comme les petits garçons, ils aiment beaucoup passer l'aspirateur parce que c'est pareil, voilà, ça permet aussi de rendre assez accessibles ces jeux qui des fois ne sont pas proposés aux enfants à la maison, voilà, pour des questions d'identité, ce qui est dommage parce que l'enfant a besoin aussi d'imiter maman. Et puis des fois, c'est papa aussi qui passe aspirateur à la maison. Donc, c'est important de pouvoir l'imiter aussi.
Et c'est assez facile, justement. Enfin, il n'y a pas des réticences, même par rapport à des parents qui pourraient dire à leur enfant, écoute, non, c'est pas à toi d'être derrière cette petite cuisine. Laisse ta sœur jouer tranquille. Touche pas cette poupée. Ou alors, la petite fille reste du côté des jouets pour filles. va chercher ta poupée, etc.
Alors moi, c'est pas des choses que je vis sur la ludothèque, puisqu'on est vraiment un espace de rencontre et, qui veut favoriser la mixité et la libre adhésion. Par contre, c'est des choses que j'ai pu vivre dans des expériences antérieures, dans des crèches ou des multi-accueil, ou voilà, dans des propositions que j'avais pu faire, voilà, de mise à disposition, de création de jeux symboliques, voilà, qui pouvaient être du repassage où on avait enlevé tout l'espace, petite voiture. On avait des retours comme ça, des parents, dire ah bah oui, mais mon fils il va pas pouvoir jouer alors parce que il y a pas les voitures, voilà. Mais c'est plus des peurs. Du parent, voilà, qui peuvent exister à des moments donnés. En même temps, si on pose des mots dessus et de l'importance aussi de pouvoir rejouer ces moments-là et que ça participe aussi à un apprentissage et que l'enfant en a besoin. Voilà, c'est des choses qui se passent assez facilement. Je pense aussi que voilà, il y a une structuration des boutiques très forte. Voilà, le côté bleu, le côté rose, c'est des choses qui sont un petit peu en train de disparaître. Ou voilà, c'est un guide aussi pour les parents. Le côté rose, c'est pour les filles. Donc on s'oriente vers ça. Le côté bleu, c'est pour les garçons. Donc il y a quelque chose comme ça déjà qui est imprégné dans la conscience collective, qui est difficile à décrocher. En même temps, voilà, le jeu ne fait pas forcément partie de notre culture familiale. Et donc voilà, c'est une aide pour les parents et voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se réfléchir et voilà, de proposer des espaces un peu plus neutres. Ça demande aussi qu'il y ait des personnes qui accompagnent le choix de jeu. Après, il existe des boutiques voilà, plus spécialisées où on peut être accompagné pour sélectionner des jeux. Voilà. Enfin, un petit garçon peut très bien avoir une poussette et décider d'y mettre 3 voitures dedans pour aller au parc. Peu importe. Le tout, c'est qu'il expérimente et qu'il découvre et c'est ce qui va l'aider à grandir et à se construire. C'est cette liberté-là qui est importante.
Alors, je vais vous citer une petite phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est Agnès Seton qui dit que l'égalité est un apprentissage. En choisissant aujourd'hui les jeux de nos enfants, nous contribuons à construire la société de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à tout ce que vous venez de me dire?
Je veux bien la lire, du coup.
Donc, l'égalité est un apprentissage.
En choisissant
aujourd'hui les jeux de nos enfants, nous contribuons à construire la société de demain.
Alors après, c'est à peu près toutes les valeurs de la ludothèque, puisqu'au travers du jeu, peu importe nos âges, voilà, il y a une vraie dimension d'égalité qui s'installe. En jouant, en prenant le temps et en se rendant disponible pour jouer avec son enfant, voilà, on a une règle qui s'applique autant à l'adulte qu'à l'enfant. Cette dimension d'égalité, elle est importante. Ce partage de ce moment, il est important aussi. Voilà, et choisir les jeux de nos enfants, ça veut dire, pour moi, choisir quelque chose qui nous plaît, aussi en tant qu'adulte, qu'on aura envie de partager et jouer avec son enfant. Voilà, il faut aussi se faire plaisir en tant qu'adulte, ne pas oublier sa petite part d'enfance, parce que ça fait du bien. S'autoriser à redevenir partiellement enfant, en jouant avec son enfant, ça permet aussi voilà, de s'évader un petit peu, de sortir de son vécu, c'est important, et c'est vivre autre chose et découvrir son enfant autrement. Et puis dans le jeu, il y a toute la dimension de la règle sociale qui s'installe aussi, et oui, on construit le devenir de nos enfants et de la société. Alors c'est que des petites choses et des petites bribes, mais voilà, si on arrive à préserver ces petits temps de partage qui sont que dans le plaisir, parce que voilà, le jeu n'est que plaisir, et puis le jeu, c'est à peu près 80% de l'activité de l'enfant au quotidien. Donc voilà, il faut y participer, et absolument en tant qu'adulte, et se laisser ce plaisir-là aussi, de découvrir son enfant autrement au travers du jeu.
Ah, très bien, ça donne envie de revenir à 80% dans son enfance. Alors, on va faire un petit peu de com pour vos actions, parce que je pense pas qu'elles soient aussi connues dans le grand public. Vous nous avez bien expliqué ce que c'était qu'une halte-jeu, une ludothèque, etc. Vous pouvez nous dire où est-ce que vous intervenez?
Alors, nous, la ludothèque est domiciliée sur le quartier de Saint-Jacques. Voilà, c'est le lieu où on accueille nos familles adhérentes pour des temps de jeu et la location de jeux. Après, la ludothèque, voilà, elle est mobile, puisque c'est des interventions voilà, dans les écoles. sur le temps scolaire. C'est aussi des interventions sur le quartier de Champratel en direction de différents publics. C'est deux accueils par enfant, un sur la ludothèque et un sur l'espace Mercœur à Champratel, en direction des enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents. C'est une animation en direction des 5-12 ans. C'est tout un travail aussi avec les centres de loisirs, les maisons de quartier, avec différents publics, personnes âgées, adolescents, préadolescents. C'est des animations au pied des tours et c'est des animations aussi en direction d'un public en situation de handicap. Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de promouvoir des temps et de créer des temps de mixité où tous ces publics-là qu'on peut rencontrer sur des temps un peu plus en groupe un peu plus restreint, c'est de proposer des temps où tous ces publics peuvent se rencontrer autour du jeu, puisque le jeu c'est un espace de rencontre et de mixité sociale. Donc notre numéro de téléphone, si vous voulez plus d'infos, c'est le 04 73 27 11 37.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Delphine. Bonne continuation dans le monde du jeu.
Merci.
Et merci à toi, Leïla, d'être allée rencontrer Delphine Lorichès. On pense fort à toi. Et donc, c'est à présent le moment des coups de gueule. Je crois que tu es en colère, Céline. Alors, les coups de gueule, on y va, c'est parti.
Montjoie, Saint-Denis. Étendard, levez-vous. Les pourfendeurs du genre sont partis en croisade pour que définitivement les garçons restent en bleu et les filles restent en rose. Tel Urbain II, les printemps français, Omen et autres Antigone s'érigent pour appeler à la rébellion face à Super U. On se croirait dans un comics moyenâgeux où les vilains trolls s'attaqueraient aux super-héros. Et oui, Super U, depuis 2 ans déjà, commet l'acte irréparable de sortir à la période de Noël un catalogue de jouets non genrés où les petites filles bricolent et les petits garçons câlinent. Oh mon Dieu ! Des générations d'enfants sacrifiés qui feront des adultes décérébrés et déséduqués simplement parce que les filles ne seront pas restées à leur place de filles et que des garçons ne seront pas restés à leur place de garçons. Mais qui décide que parce que je suis une fille, je n'aurai pas le droit qu'à faire la cuisine, le ménage et élever les gosses? Qui a décidé que je devais être une princesse déguisée en bonbonnière rose devant attendre sagement le seul et unique prince charmant? Les pourfendeurs de la liberté qui tremblent dès qu'une ligne bouge dans le sens de plus d'égalité. Ces spadassins du patriarcat qui voudraient que l'on continue à éduquer nos enfants soit à devenir des oppresseurs, nos garçons, soit à devenir des opprimés, nos filles. Car oui, ouvrir le champ des possibles à nos enfants, c'est leur offrir plus de liberté. C'est permettre à des filles de se rêver super-héroïnes et à des garçons de se projeter comme pères attentifs et attentionnés. Quel mal y aurait-il à cela ? Une société n'est pas et ne doit pas se figer dans ce qu'elle doit être, mais dans ce qu'elle devrait être. Nous nous devons de continuer à la faire évoluer pour tendre à l'égalité entre les êtres. L'éducation de nos enfants est un pilier incontournable du changement et de l'évolution. Nous pouvons, tous et toutes, en tant que parents, tata et tonton, cousins et cousines, contribuer à une société plus juste et égalitaire. Offrir en cette période de Noël un jeu de construction pour une petite fille et une poupée à un petit garçon sont des actes posés pour refuser les assignations qui nous enferment dans les carcans sexués de ce que doit être une femme ou un homme. Ces carcans sont à l'origine des inégalités persistantes entre les sexes. Et c'est ce que nous expliquent les études de genre. Car il n'existe pas de théorie du genre, mais bien des études qui démontrent que devenir un homme ou une femme est avant tout une construction sociale et pas un état de fait naturel. Ces ardents défenseurs d'une société traditionnelle pensent que parler de genre va provoquer un séisme de nos valeurs morales, ou plutôt de leurs valeurs morales. Car le monde qu'ils défendent est archaïque. Il se base sur la haine de l'autre, l'homophobie, le racisme, le sexisme. En tant que féministe, nous portons un projet humaniste et progressiste fondé sur le respect de chacun et chacune, sur le droit au choix, à la liberté et à l'égalité. Ils appellent à boycotter Super U, nous appelons à boycotter leurs idées malsaines et néfastes pour le vivre ensemble. Offrons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à nos enfants. Ouvrons-leur les portes de la créativité et de l'imaginaire pour qu'ils nous construisent un monde d'adultes fait de liberté, d'égalité et de sororité.
Et on passe au coup de cœur. Qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Rien, mais je vais parler quand même. Donc, au Yémen, il y a des femmes et il y a même des prix Nobel de la paix. J'ai vu récemment un reportage sur Tawakkol Karman, qui a été prix Nobel de la paix en 2007. Elle a été leader, elle est toujours leader de la révolution au Yémen. Donc depuis quelques années, elle est vraiment à la tête du soulèvement contre le président à vie, hein, donc le dictateur qui est parti, mais qui a toujours l'immunité, donc qui est toujours un petit peu derrière les manettes. Alors c'est une femme vraiment admirable, qui se dresse contre Al-Qaïda, qui se dresse pour la liberté, qui n'a pas peur. C'est vraiment une figure. Et derrière elle, il y a aussi toutes les femmes yéménites qui n'ont pas cessé de défiler dans les rues depuis les printemps arabes, qui n'ont pas cessé de demander la liberté et l'égalité par des actions pacifistes. Donc vraiment, ces femmes m'ont inspiré beaucoup, beaucoup d'admiration. Cette femme, Tawakkol Karman, dans ce pays, elle est comparée à la reine de Saba. Parce que dans l'histoire du Yémen, il y a une grande reine qui a favorisé la prospérité du pays, c'est la reine de Saba. Donc c'est la nouvelle reine de Saba. Moi, je trouve que ces deux figures méritent qu'on s'y attarde. Et puis au Yémen, donc, il y a maintenant une organisation qui est là pour reconstruire des institutions, pour rebâtir une organisation politique dans le pays. Ça s'appelle le Dialogue National. Des femmes siègent à ce Dialogue National, mais elles réclament 30% des sièges. Elles ne les ont pas encore obtenus. Et certains, j'ai entendu un homme dans le reportage dire qu'elle devrait avoir 50% des sièges, puisque c'est 50% de la population. J'ai trouvé ça excellent. J'aimerais que nos députés disent ça aussi.
Si seulement ils pouvaient prendre exemple. Et ce dialogue national dont tu parles n'a pas demandé que l'âge du mariage soit ramené à 18 ans ?
Oui, c'est ça. En ce moment, donc, c'est une demande des femmes qui siègent là-bas. C'est que l'âge du mariage légal soit ramené à 18 ans, ce qui empêcherait les mariages arrangés, les mariages forcés et le fait que les femmes au Yémen soient d'éternelles mineures, n'aient pas accès à l'éducation et ce genre de choses. Donc, je dis aux femmes yéménites, continuez, bravo pour leur courage et leur détermination à changer leur monde.
Merci Céline. Dernière pause musicale de cette émission. C'est un conseil. Est-il bon, est-il mauvais? À vous de juger. Je ne prendrai aucun parti. C'est Magali Noël qui reprend une chanson de Boris Vian. Ne vous mariez pas les filles.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, s'immincer le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seule chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat, élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face d'aura friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia.
Eh bien, j'espère juste que vous ne serez pas dégoûtés du mariage non plus. C'est à présent le quart d'heure de culture.
Debout, debout.
Alors ce soir, j'aimerais vous parler de Christina Treby, une femme engagée qui s'est toujours battue pour la cause des femmes. Et Christina peint depuis 35 ans. Elle expose actuellement au Centre Georges Brassens à Saint-Jacques, une exposition sur le thème de la main et du geste qui constitue le fil conducteur de ce travail. La main qui appelle, la main qui parle, qui touche, qui blesse et qui apaise à la fois. La main de pouvoir, la main de dialogue, bref, un univers assez fascinant. L'exposition aura lieu jusqu'au 20 décembre 2013. Et le petit point intéressant qui a toute son importance, c'est qu'il y a des possibilités de visite guidée par Christina elle-même, donc l'exposition commentée par l'artiste qui vous fait visiter son univers, sur rendez-vous uniquement en téléphonant au Centre Georges Brassens au 04 73 40 86 80. Profitez-en. Et donc, Anne-Laure, je crois que tu as préparé quelque chose. Tu vas nous emmener au Vietnam.
Tout à fait, oui. Ce soir, je souhaiterais vous parler d'un livre qui m'a fortement émue. Il s'agit du livre intitulé « Terre des oublis », écrit par un écrivain vietnamien nommé Duong Thu Wong. Ce livre relate l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années, Mien, veuve d'un soldat mort pendant la guerre fratricide qui a déchiré le pays pendant les années 1970. Après un temps de veuvage respectable aux yeux de toute sa communauté, elle s'est remariée à un homme puissant qu'elle aime et avec qui elle a un enfant. Mais un soir, en rentrant d'une journée en forêt, Mien apprend que son premier mari n'était pas mort et qu'il est revenu vivre auprès d'elle. Elle doit alors faire un choix cruel entre le chemin que la société lui impose et celui qu'elle devrait suivre. Terre des oublis, c'est l'histoire d'une femme bigame à son insu, mais c'est surtout l'histoire d'une société pétrie de traditions, d'honneurs mal placés et de convictions politiques et morales. C'est également la peinture d'une société d'après-guerre et la réinsertion dans la vie normale des soldats. Ce livre est d'une beauté et d'une puissance rarement égalées. Les textes magnifiquement ciselés viennent servir une histoire cruelle, mais également porteuse de réflexions sur la société et ses contradictions. Mais ce n'est pas que pour cette raison que j'ai choisi de vous en parler. Quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé l'auteur exceptionnel sans rien connaître de sa vie. Ce n'est qu'en allant me renseigner que j'ai appris que l'écrivain était une écrivaine et que celle-ci avait eu un parcours similaire à son héroïne. Mariée de force à un homme violent qu'elle n'a pu quitter en raison d'une trop forte pression familiale, Duong Thu Wong a fini par réussir à se libérer du joug de sa famille pour connaître celui du parti politique. Le parti communiste vietnamien a voulu en faire une héroïne du parti, tant son œuvre littéraire était populaire dans son pays et à l'étranger. Mais Duong Thu Wong n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Et les critiques de la société vietnamienne et du régime communiste qui apparaissent en filigrane dans ses livres ont entraîné son exclusion du parti communiste vietnamien, sa mise sous résidence surveillée et son emprisonnement dans les années 1990. Aujourd'hui, les livres de Duong Thu Wong ne paraissent plus au Vietnam, mais uniquement à l'étranger. Elle vit sous résidence surveillée depuis qu'elle a décliné l'asile politique en France. Donc Duong Thu Wong, Terre des oublis, un magnifique livre que je vous recommande.
Merci Anne-Laure. On passe rapidement au bon plan.
Alors, ce mois-ci, un bon plan, c'est Brigitte Fontaine à la coopérative de mai, le 17 décembre. Brigitte Fontaine, c'est une artiste, une vraie. On peut vraiment pas dire qu'elle, elle a réussi en mettant en avant son physique. C'est vraiment sa création, son originalité, son talent et puis son petit grain de folie. Donc, on en voudrait plus des créatrices dans son genre, hein, Brigitte Fontaine. Autre bon plan, un album pour enfants qui est sorti aux éditions,
Rue du Monde.
Merci. De Gwendoline Resson, illustration de Clotilde Perrin. Tes fleurs ou tes choux? À partir de 4 ans, donc un livre qui balaye les frontières un peu trop établies du genre et qui montre qu'on n'est pas obligé d'être en rose quand on est une fille et d'être en bleu quand on est un garçon. Donc encore une bonne idée à mettre sous le sapin.
C'est chou.
C'est très très chou effectivement et toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin. Il est déjà 18h57, c'est triste. Donc cette émission se termine. Merci beaucoup les filles d'avoir été là, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à Karine, merci à Leïla pour leur contribution à l'émission mais qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Merci à toutes les filles d'OLF 63, on pense fort à vous toutes. Ne soyez pas tristes car nous débuterons 2014 ensemble le 14 janvier prochain. En attendant, profitez bien car il ne reste plus que quelques jours en 2013 pour se féminister à fond. Alors, joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Bye bye.
À suivre, Sound of the Beasts.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fonds, nos femmes esclaves, et prisons nos entrailles.